Est-ce que vous avez remarqué, si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, toutes ces lettres qu'envoyaient les apôtres aux églises, elles sont régulièrement introduites par une bénédiction et elles se concluent par une bénédiction. Et donc on trouve ces formules: que la grâce et la paix vous soient données, que la grâce et la paix vous soient données. Et elle se termine de la même manière: que la grâce et la paix vous soient avec vous. Elles vous sont données au début, qu'elles soient avec vous. Gardez cette grâce, cette paix que vous avez reçue à travers particulièrement ces textes inspirés par le Saint-Esprit, nous le savons. La paix, alors c'est un grand sujet, un sujet d'actualité en tout cas. C'est le sujet qu'avait choisi les responsables de notre famille d'église, les CAEF, dans le dernier congrès du mois de juin dernier. Le titre était « Vivre l'évangile de paix dans un monde fracturé ».« Vivre l'évangile de paix dans un monde fracturé ». Et il y avait trois séances. Et je voudrais, avec vous, normalement il y a déjà la projection de la première séance, je vais faire une synthèse, une reprise pour nous ce matin, de façon peut-être plus simplifiée que ce qu'elle a été exposée, pour parler de ce sujet. Et le titre donc de cette première conférence était le suivant: heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. Heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. Et j'ai choisi deux textes pour illustrer notre propos. Je vais les lire maintenant et je les relirai également à nouveau au cours de mon message. Seigneur, oui, merci pour la lecture de ta parole que nous allons faire. Ce que je dis n'est pas important, c'est ce qui est écrit qui est important, Seigneur. Et merci de nous aider à saisir tout cela pour notre plus grand bien de notre âme. Merci, par Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Voici ce que nous lisons. Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme des non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Il y avait un problème dans la première église historique entre ceux qui étaient juifs et ceux qui ne l'étaient pas. Et on contestait souvent le droit aux non-juifs d'avoir les mêmes privilèges que ceux qui étaient d'origine juive à 100% et qui était donc circoncis par rapport aux autres qui venaient du monde païen et qui n'étaient pas circoncis. Et donc l'apôtre a en arrière-plan cette pensée ici dans ce texte, mais on peut étendre à d'autres situations contemporaines son propos. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui, qui des deux groupes, les circoncis et les incirconcis, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle, par la croix, la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Rien de mieux que ça. Deuxième texte, hein, l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Alors, il est question de paix dans le titre « Heureux ceux qui procurent la paix ».« Heureux les artisans de paix », a dit Jésus. Mais de quelle paix parlons-nous ? Alors, il y a la paix des dictionnaires. Voici ce qu'on trouve dans Wikipédia. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres, de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique, la paix. La paix des dictionnaires est la paix dans le monde. En acte 24, nous trouvons le portrait du gouverneur romain, Félix, un homme qui maintenait avec succès la Pax Romana, la paix romaine, en Judée. Toute une période unique de l'histoire de l'humanité où il y a eu la paix. Mais quelle paix ! Quand Paul lui a parlé de l'importance de la maîtrise de soi à ce gouverneur romain, qui lui a parlé du jugement à venir, le voilà qu'il a eu peur, parce que lui-même, à l'intérieur de lui, n'était pas en paix. La paix, quelle paix ! Les médias disent que Donald Trump recherche le prix Nobel de la paix. Il est intéressé par cette distinction et il se démène, comme vous le savez, pour que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête. Mais on voit que pour lui, la paix est une question davantage de rentabilité, elle doit être au service du business. Et on sent derrière tout ça que son vrai Dieu à lui, c'est l'argent, tout simplement. Est-ce de cette paix-là dont on a besoin ? Le Togo, que je connais bien, a été appelé pendant longtemps la Suisse de l'Afrique. Les banques avaient établi leur siège là-bas parce que le pays était stable, il était en paix. Mais c'était la paix de la loi du plus fort, une paix au prix de la domination d'un dictateur et de sa famille qui a suivi. La paix dans le monde. Et qu'est-ce que la paix dans la Bible ? Si on le prend de but en blanc comme ça, je vais vous lire quelques versets et vous allez dire que c'est pas si simple que ça. En 1 Roi 4, 25, par rapport à la série de Salomon qu'on vient de faire, l'histoire de Salomon, voici ce qu'on avait lu ensemble. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon, une longue période de paix, là aussi, où les Israélites étaient tranquilles, chacun avait sa propriété, chacun avait ses arbres fruitiers, chacun voyait pousser sa vigne, bénéficier, pouvait faire son petit vin à sa convenance. Quand Jésus est venu en Matthieu 10, 34, voici ce qu'il a dit. J'ai pris les citations chronologiques. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et ça a venu aller créer bien des divisions, bien des ruptures dans les familles, dans la société. En Jean 14, 27, il a dit « Pourtant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » En 1 Thessaloniciens 5:3, nous lisons cette parole prophétique de l'apôtre Paul. « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Et l'apôtre Paul conclut ainsi l'épître aux Romains, chapitre 16, verset 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. Et quelle est cette paix qui doit régner dans l'Église? Qu'est-ce qui fonde notre paix? Alors, l'orateur Thomas Poète a expliqué que pour bien comprendre notre paix au XXIe siècle, en quoi elle consiste, il faut se référer à ce qu'il a appelé le grand récit du salut. Connaître le grand récit du salut, c'est un petit peu la même chose que j'avais exposé il y a quelque temps. Connaître la vision chrétienne du monde. Et plutôt, tout simplement, on peut le dire, connaître la Bible, connaître la parole de Dieu. Et Morel a introduit tout à l'heure notre culte avec le psaume 119. Pour qui la parole de Dieu est le bien précieux du psalmiste. On a entendu ces choses-là. Connaître la parole de Dieu, c'est elle qui va nous permettre, lorsque un conflit est devant nous, comment gérer la difficulté. Et en la confrontant à la grande histoire du salut, en la confrontant à la parole de Dieu, on va pouvoir préserver, faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire dans les convictions. Discerner ce qui révèle simplement de la culture ou ce qui révèle d'une erreur doctrinale. Autrement dit, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et pour cela, consulter la Bible que le Saint-Esprit a inspirée. Alors, ce récit du salut, je vais vous le présenter en 6 actes, plutôt c'est Thomas Poète qui fait ainsi. Je vais projeter à l'écran tout de suite. Grand récit du salut de l'humanité. En six chapitres ou six actes. Donc, il y a une chronologie dans la parole de Dieu. Il y a un commencement, il y a une fin. Et c'était intéressant de comprendre ce salut, de comprendre cette histoire. À travers toute cette histoire de Genèse jusqu'à Apocalypse, on découvre qui est Dieu, toutes ses attributs dans chacune des passages de ce grand récit. Et donc, il se divise en 6 actes. Le premier acte, c'est la création dans le jardin d'Éden, puis la chute de l'homme. Et ensuite vient le temps de l'ancienne alliance, où les hommes, le peuple d'Israël et nous à travers eux et l'ensemble des hommes apprennent à travers leur expérience qu'ils ont besoin absolument d'une rédemption, ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin d'un sauveur, ce qui prépare la venue de Jésus-Christ, qui vient souffrir en sacrifice, mourir et ressusciter, mourir pour les péchés, ressusciter pour la justification de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Puis vient le temps de l'Église, où l'Église qui s'édifie, qui se construit, qui multiplie, qui grandit, et nous sommes dans le temps de l'Église ici, et il y a un dernier acte qui va suivre la nouvelle création, le retour du Seigneur, et comment il va rétablir toutes choses. Au début de la création, on trouve l'homme en harmonie avec Dieu, créé à l'image de Dieu, avec une activité qui est devant lui, une position privilégiée par rapport à toute la création. Mais la tentation et la chute, la sorte de révolte que Adam et Ève, nos premiers parents, ont eue, va briser cette paix. La paix avec Dieu va être brisée. La paix avec eux-mêmes va être brisée. Ils vont se faire des ceintures. Ils vont avoir honte d'eux-mêmes. Et également dans les relations l'un avec l'autre au niveau de l'humanité, et il va y avoir des conflits là où il y avait de l'harmonie, il va y avoir des conflits, la paix personnelle de soi-même, la paix avec autrui va être brisée, et la paix également avec la nature, avec le reste de la création va être brisée également. La terre est maudite, et les relations que l'homme entretenait avec la création vont être brisées également. Le terrible acte de la chute, l'humanité qui a besoin de rédemption, donc, et Dieu qui envoie les patriarches, Abraham, il envoie ensuite Moïse, il fait sortir le peuple hors d'Égypte avec Moïse, et ils vont construire le tabernacle, et Dieu va être au milieu de son peuple avec de belles promesses, mais les Israélites ne vont pas réussir à rester fidèles à leur Dieu, et on a une succession d'échecs, de rétablissement, de pardon de Dieu jusqu'à la venue du roi David. Et même la royauté ne permet pas de régler ce problème, qui est un problème que les prophètes situent dans le cœur de l'homme, et les hommes ont vraiment besoin du Messie. Et donc, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu. Dieu qui s'est fait chair, qui est venu dans un corps semblable en toute chose au nôtre, avec la seule différence seulement qu'il ne connaissait pas le péché, et Jésus-Christ donc va être rejeté et va être cloué, condamné à la croix, à la crucifixion, le châtiment le plus terrible qui existait à l'époque, qui a existé également dans l'histoire de l'humanité. Tout ça a été prévu par Dieu parce qu'il voulait que son fils soit l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont au bénéfice de cette expiation des fautes dont on porte la culpabilité, toutes ces fautes dont on a honte, qu'on cache, portée. Cette culpabilité a été portée à Jésus-Christ. Sur la croix, il a pris notre souillure et il donne en échange sa pureté. Et ainsi, la paix est retrouvée. Rétablissement de la paix, de la communion avec Dieu, c'est le texte que nous avons lu. La communion avec l'acceptation de soi-même, c'est un long apprentissage de se connaître et de se voir comme quelqu'un que Dieu aime malgré toutes nos failles, être réconcilié avec soi-même, être réconcilié avec autrui et être réconcilié également avec la nature. Là, il y a encore beaucoup de progrès à faire sans doute parmi les chrétiens. Mais cette paix est possible, elle est retrouvée, mais elle n'est pas encore complètement terminée. L'Église est en édification et chaque chrétien est en construction. Il y a une transformation qui a commencé et qui doit se poursuivre pendant toute notre vie terrestre. Déjà, nous sommes au Seigneur, mais nous ne sommes pas encore complètement avec lui. Un jour, par contre, on a chanté ce beau chant tout à l'heure qui marquera ce jour du retour de Jésus-Christ où tous ses enfants entreront avec lui dans l'éternité, complètement transformés, débarrassés de tous ceux qui avaient relevé du péché. Et donc le récit du salut, c'est un récit qui parcourt toute la Bible, mais qui parcourt également toute la vie des chrétiens. Chacun constate qu'il est pécheur, chacun constate qu'il a besoin d'un sauveur, d'être sauvé par quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne peut être que Dieu lui-même. Et chacun peut accepter cette offre de salut, et un jour, ce sera le bonheur avec lui. Cette grand texte de la Bible, il est volumineux, il est gros comme ça. Alors les hommes, ils ont fait des résumés, ils ont fait des confessions de foi pour mettre un terme aux hérésies, pour avoir un socle commun dans lequel on se met, tous les chrétiens se mettent d'accord, et il y a des possibilités de liberté sur les croyances non essentielles. On conserve l'unité en acceptant qu'on n'est pas tous le même point de vue sur tout. Donc la confession la plus connue, c'est celle de Nicée-Constantinople, hein, du 4e siècle, qui est reconnue par tous les chrétiens. Et nous, dans les CAF, nous avons la confession beaucoup plus longue, qui concerne la confession du réseau FEF, qui a une multitude de chapitres, je vais en reparler. Le fondement de notre prêt concerne l'Église en construction. Nous sommes dans cette époque-là. Nous ne sommes plus au temps de Salomon, ici, où la paix était une paix terrestre, ne plus être en guerre contre personne. Ici, la paix de Jésus est différente. Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Et c'est de cette paix-là à laquelle il faut s'attacher. Il y a des situations tendues dans l'Église. Et comment ces situations, on peut les comprendre par rapport à ce grand récit, nous dit Thomas Poète. Alors il propose deux exemples où la référence à ce grand récit, à la référence à la parole de Dieu, la référence à celui qui a inspiré la parole de Dieu, permet de trouver des solutions, un chemin de paix à travers les épreuves qui arrivent, les complications de la vie dans l'Église. Il prend le premier exemple, le rapport apaisé par rapport à la science. Il y a quelques années, on avait l'épreuve du Covid-19 et ça a créé des problèmes dans les églises entre ceux qui voulaient se faire vacciner et ceux qui ne voulaient pas de la vaccination. Comment ceux qui se font vacciner pour se protéger et d'autres qui arrivent qui ne sont pas vaccinés, comment vivre ensemble? Ça a causé des problèmes, des tensions dans les églises. Alors, le grand récit nous permet, rappelle Thomas, que Dieu est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui a tout créé et toutes les sciences ne peuvent s'appuyer que sur la parole de Dieu, les lois de Dieu ont été établies. Donc, en soi, la science n'est pas mauvaise si on la fait rentrer dans le grand récit. Et en même temps, la science n'est pas non plus notre raison de vivre. C'est pas la science que nous vénérons. Ce que nous vénérons, c'est notre Dieu. La science ne peut pas tout expliquer. Elle ne peut pas révéler le sens de l'existence. La science n'est pas notre récit. Notre grand récit, c'est la parole de Dieu. Et donc, il y a une tension ici et que l'on doit prendre en compte et se souvenir de qui est notre Dieu, ce qu'il a fait, et trouver un chemin de paix. Un deuxième exemple qui prend, c'est de ne pas céder à la facilité par rapport au racisme. Bon, les chrétiens ne sont pas racistes. Personne chrétien ne dira qu'il est raciste. Et pourtant, on arrive à des situations, des fois, dans les églises, les grandes églises, pas comme la nôtre, mais dans les grandes églises, dit Thomas Poète, que voilà, quand il y a une agape, et bien voilà, on a chaque ethnie qui a tendance à se regrouper par affection culturelle, où voilà, les gens de couleur, les Africains vont se mettre ensemble, puis là, voilà, les Européens, les Français ensemble, puis les autres, voilà, les Asiatiques ensemble. Et bon, les gens ne le font pas exprès, mais c'est un petit peu la facilité que de faire ça, et ça ne reflète pas le grand récit où un jour, les murs de séparation ont été établis sur tous les hommes, la paix a été rétablie avec autrui, et un jour, dans l'éternité, tout le monde sera ensemble autour de notre Dieu, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait ces groupes, que ces groupes subsistent, et ça demande un effort. Être artisan de paix, c'est un travail, hein. Céder à la facilité, c'est se mettre entre affection culturelle ou affection tout court, ou selon qu'on a des atomes ou crochus, on fait des petits groupes dans l'église, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'église. C'est pas ça qu'attend notre Dieu. Troisième exemple. Comment faire pour, ça c'est moi qui le donne, pour ouvrir la porte à l'église à des chrétiens qui commencent à fréquenter le culte. Est-ce qu'on peut donner le repas du Seigneur? Est-ce qu'on peut accueillir comme membre? Est-ce qu'on peut donner des responsabilités? Quand on voit qu'on est peu nombreux comme nous, on voudrait vraiment accueillir tout le monde et on ne pose pas de questions. Venez, 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 ouvrir grand les portes. On est si peu nombreux, voilà, des aides sont les bienvenues. Mais de notre côté, il faut préserver la paix de l'Église. Alors, on peut se référer à travers le grand récit. Quelle est la situation de cette personne au niveau éthique? Dans quelles conditions elle vit? Est-ce que ça correspond au grand récit du salut de l'humanité? On peut également poser la question de l'adhésion à la confession de foi. Est-ce que la personne est d'accord avec les articles qu'elle confesse? Et le principal, est-ce que cette personne a le désir d'être transformée elle-même, ou est-ce qu'elle a le désir de transformer les autres, hein? Il est important dans notre vie personnelle de savoir toujours que l'Église ici est en construction et que nous devons avoir cette idée que nous sommes nous-mêmes en construction. Nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas parvenus à l'état d'homme fait, hein, à la perfection. Nous sommes en chemin et nous cheminons avec d'autres qui sont en chemin également. Et le désir de transformation est quelque chose qui est très important. C'est une personne a le désir de progresser, à recherche que Dieu lui fasse faire des progrès, plutôt que de s'occuper et de vouloir imposer aux autres ses points de vue. Ben c'est pas la même chose, hein. On doit toujours entretenir ce désir de transformation pour vivre en paix les uns avec les autres, se voir dans l'humilité, se voir dans la dépendance, dans le besoin qu'on a des uns et des autres. Et ainsi, on sait s'il faut ouvrir, s'il faut fermer, s'il faut entrebâiller la porte, mettre une période d'essai ou quoi d'autre pour préserver la paix commune, le bien de la paix commune. Quatrième exemple, il y a le recours à la discipline. Il peut y avoir des difficultés, que ça arrive, hein. Par exemple, on avait un frère qui était très à cheval sur les conditions pour prendre le repas du Seigneur, et pour lui, quelqu'un devait être baptisé obligatoirement baptisé par immersion pour prendre le repas du Seigneur. Il n'envisageait pas il ne comprenait pas que quelqu'un qui était baptisé enfant puisse prendre le repas du Seigneur. Et donc, c'est intéressant que de lire la confession de foi par rapport à ce sujet-là. Et si on lit la confession de foi, je ne vais pas le faire parce que l'heure tourne. On va voir que il n'est pas question de cela. Bon, je vais le faire quand même. Parce que c'est toujours utile. Voilà, nous croyons, par rapport au repas du Seigneur, voilà ce qui est dans la confession de foi, nous croyons que la scène commémore et proclame la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous croyons que le pain et le vin sont respectivement les symboles du corps et du sang offerts par notre Sauveur sur la croix. En participant à la scène, les rachetés témoignent qu'ils sont un avec Jésus-Christ et en communion les uns avec les autres dans la joyeuse espérance de son retour glorieux. Si cette confession de foi trouve de l'adhésion, et si on remet la grande histoire du salut, comment refuserons-nous aujourd'hui la communion à une personne, sachant que demain, elle sera avec nous dans le ciel? Pourquoi ne pas la recevoir aujourd'hui, alors que demain, elle sera avec nous dans le ciel? Il y a une contradiction par rapport au grand récit de l'humanité. Si cette personne est vraiment un enfant de Dieu, elle sera avec nous plus tard. Et donc, dans ce cas-là, il faut dire à la personne, non, ce que tu demandes, c'est pas possible. Et si la personne insiste qu'elle veut imposer ça dans l'Église, ce point de vue dans l'Église, on est obligé d'exercer la discipline. La discipline, c'est en quelque sorte déjà un conflit. C'est un conflit qui va être là, mais il est fait pour préserver la paix commune, sachant que nous sommes dans le pas encore. Nous ne sommes pas encore dans la perfection. Et si l'on perd pas de vue l'endroit où l'on est, d'où on vient et où on va, ça va nous guider pour prendre les bonnes décisions pour maintenir la paix dans l'Église. Heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. Alors, en conclusion, que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix, afin que l'on soit reconnu dans le monde comme des fils et des filles de Dieu, nous dit Thomas, poète. Connaissons le grand récit, connaissons notre Bible, référons-nous à notre Bible et dans son mouvement, dans le contexte dans lequel sont donnés chaque texte par rapport à cette grande histoire du salut que Dieu a préparé pour l'humanité entière. Laissons-nous conduire par l'Esprit qu'il a inspiré pour savoir préserver cette paix qui est un bien précieux. J'en terminerai là pour aujourd'hui. Une prochaine fois, on verra comment préserver, garder cette paix, comment des fois on perd cette paix en tant que chrétien, on la perd personnellement, on n'est plus en paix, et donc comment s'en apercevoir et comment également retrouver la paix dans ces quatre dimensions, la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec mon prochain et la paix avec toute la création en tant que créature de Dieu. Les problèmes dans les familles arrivent facilement et on n'est pas encore arrivé au bout, et il y a du travail. Être des artisans de paix, la paix, ça se travaille également. Seigneur, merci pour nous garder dans ta paix. Que la grâce de Dieu soit avec vous, comme disaient toutes les apôtres. La grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci pour cette paix que tu tiens à notre disposition. Merci parce que il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que tu nous vois, notre Dieu. Par Jésus. Amen. Amen.